Frédéric Michelan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire de l'ATECOR. On va parler avec vous de cette année 2013 et puis des perspectives. Vous avez pris la tête de cette équipementière aéronautique il y a peu, on peut dire. Vous amenez donc, je dirais, une nouvelle expérience pour l'ATECOR. On attendait effectivement cela depuis un petit moment, notamment du côté des investisseurs. Si on résume l'année 2013 pour vous.
Alors, l'année 2013, il y a plusieurs, je dirais, faits marquants. Le premier, c'est que c'est une année qui a été excellente en termes d'activité, une croissance organique du chiffre d'affaires de près de 9%, qui s'inscrit dans la continuité de ce que la société a délivré en termes de croissance de son chiffre d'affaires, autour de, on va dire, de 10% en moyenne sur les 3 dernières années. Une moisson de contrats assez impressionnante. Il y avait 2 contrats importants en 2013 sur lesquels il fallait être présent. C'était le fameux contrat des portes A320 Neo, contrat que l'on a remporté chez l'ATECOR, et puis deuxième contrat très important, les portes du fameux modèle E2 d'Embraer sur lequel on a été présent. Donc ça, c'est 2 contrats, je dirais, emblématiques, avec des donneurs d'ordre historiques pour l'ATECOR, mais on a fait aussi beaucoup d'autres choses. L'année 2013 a été aussi marquée par la signature d'un contrat important en termes d'outillage, à nouveau pour le client Embraer, et je dirais carton plein, avec la signature d'un contrat d'ingénierie, là aussi pour Embraer. Donc c'est quelque part le couronnement des efforts qui ont été faits par l'ATECOR au cours des dernières années pour être présent non seulement auprès des 2 grands donneurs d'ordre de l'aéronautique Airbus et Boeing, mais aussi auprès d'autres avionneurs extrêmement dynamiques comme Embraer ou Dassault ou Bombardier pour n'en citer que cela.
Alors, cette dynamique de l'aéronautique crée parfois effectivement des soucis d'organisation. Il faut répondre comme d'autres équipementiers à cette demande. Ça a créé des tensions chez l'ATECOR en termes d'organisation, de flexibilité. Vous en êtes où justement sur la réorganisation du groupe?
Alors oui, effectivement, très forte augmentation des cadences. Je vous donnerai juste un exemple sur un des contrats emblématiques aujourd'hui de l'ATECOR. On a commencé, je dirais, le premier mois de l'année 2013 avec une cadence qui situait à environ 3 avions et demi par mois. On a fini l'année 2013 sur le même contrat, novembre et décembre, à un rythme de 10 avions à 11 avions par mois. Donc vous voyez, ça vous donne une idée, je dirais, de l'accélération à laquelle se sont produites ces cadences. L'augmentation de ces cadences, elle se traduit aussi par une très forte variabilité. C'est-à-dire qu'on a constaté, là aussi en prenant quelques exemples, que si en début d'année, on se met d'accord sur un planning de livraison avec un avionneur, il y a un tiers de ces livraisons qui vont être décalées, soit anticipées, soit retardées, du fait justement d'un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la supply chain. Parce qu'effectivement, pour un avionneur, il n'y a aucun sens de récupérer des portes venant de l'ATECOR s'il n'a pas les éléments de fuselage, éventuellement, qui viennent de d'autres fournisseurs. Donc, non seulement il faut arriver à gérer cette très forte hausse des cadences, mais aussi toute la variabilité qui est associée à ça. Et c'est ça, aujourd'hui, un des enjeux auxquels l'ATECOR est confronté, comme beaucoup d'autres acteurs de la filière.
Donc là, ça demande une nouvelle organisation, de nouveaux process
Ça
industriels,
demande la
peut-être.
remise à plat d'un certain nombre de process. On rentre complètement dans un fonctionnement de programme série, dans un mode de fonctionnement très industriel, alors qu'effectivement, l'ADN de base de beaucoup de ces, je dirais, de ces sous-traitants de rang 1, ce sont des compétences fortes en termes d'ingénierie, un savoir-faire important sur lequel on s'appuie au quotidien et qui est valorisé par nos clients, à l'exemple de ce contrat qu'on a remporté avec Embraer. Mais maintenant, il faut arriver à passer au stade suivant, qui est véritablement le stade de l'industrialisation. Et c'est ça un des enjeux.
Alors, on sait que l'aéronautique, comme l'automobile, fonctionne par cycle. Certains commencent à se poser la question de savoir est-ce que ça va ralentir et à quelle échéance l'aéronautique va ralentir les cadences.
Alors ça, effectivement, c'est la grande inconnue. C'est la grande inconnue puisqu'on a, je dirais, enchaîné des rythmes de progression extrêmement rapides. On sait tous, les arbres ne montent jamais au ciel. Airbus parlait de cadence de 42 sur la 320 à un objectif 2016, donc un objectif à 3 ans qui est de passer à 46. Il y a eu des augmentations de capacité assez importantes au niveau des avionneurs, mais même au niveau, je dirais, des sous-traitants de rang 1 comme l'ATECOR. On a construit une nouvelle usine au Mexique dans laquelle on va faire à la fois des éléments de fuselage et des éléments de système de câblage. Il faut arriver à suivre ce rythme. Est-ce que, je dirais, on va continuer à poursuivre sur le même rythme en termes de croissance dans le futur? Ça, c'est la question. Il faut savoir aujourd'hui, comme je le disais, que la supply chain est quand même très, très fortement sous pression et on a déjà identifié des endroits où il y a rupture avec les décalages de livraison dont que j'évoquais précédemment.
En termes de production, justement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a différentes unités de production, et notamment une unité de production tunisienne. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, justement?
Alors, on a connu, je dirais, une situation un petit peu, je dirais, instable en Tunisie au moment des événements de la révolution du jasmin. Les choses se sont bien stabilisées depuis. En réaction à cette situation, nous avons été obligés de délester une partie de la production qui jusqu'à présent était assurée en Tunisie, de la rapatrier pour partie en France. Progressivement, je dirais, on retransfère cette production initialement prévue en Tunisie. Donc aujourd'hui, on est dans un mode de fonctionnement, je dirais, beaucoup plus normalisé.
Qu'est-ce que vous pouvez dire de la situation financière? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'éléments financiers, de bribes covenant, comme on dit, par rapport à des ratios financiers que vous deviez respecter par rapport à des banques. Vous en êtes où de ce côté-là?
Alors aujourd'hui, on a, je dirais, obtenu ce qu'on appelle les mains levées de nos partenaires financiers quant au respect de ces covenants. Donc on va se réengager dans une discussion avec l'ensemble de nos partenaires financiers dans l'objectif d'assurer fondamentalement une meilleure adéquation entre la maturité moyenne de notre dette, qui aujourd'hui est de 3 ans, 3 ans et demi, et la nature des activités dans lesquelles on est aujourd'hui, qui sont des contrats signés pour 15 ou 20 ans. Donc nos partenaires financiers comme nous-mêmes sont convenus qu'il était important qu'on essaie d'assurer une meilleure adéquation entre ces deux horizons de temps.
Alors vous avez présenté aussi un nouveau programme que vous appelez un plan Boost, donc sur les 2 ans à venir. Vous dites tout de même que, compte tenu de ce qui s'est passé, effectivement, début 2014, il y aura des coûts supplémentaires, mais comment va se mettre en place ce plan, justement?
Alors ce plan, en fait, il est composé de. Il a deux piliers. Il a un premier pilier qui s'appelle un pilier performance et un deuxième pilier qui s'appelle redéploiement stratégique. Le pilier performance, il a déjà démarré. En interne, il a démarré le 11 février dernier, on a présenté ce plan à l'ensemble de nos collaborateurs pour les sensibiliser à l'importance de la réussite de ces objectifs 2014, 2015, 2016. Deux objectifs. On est allé vers quelque chose d'extrêmement simple. Un objectif en termes de croissance de notre activité, une croissance moyenne annuelle autour de 4%, et surtout, objectif très important, faire en sorte à ce que cette croissance soit génératrice de cash. Donc un objectif de cash flow opérationnel de 7% du chiffre d'affaires à l'horizon 2016. Donc l'ensemble de l'organisation est en tension par rapport à la réalisation de cet objectif. Un élément important à souligner, c'est que ces objectifs financiers se traduisent par la mise en œuvre d'un certain nombre de leviers opérationnels, puisque les enjeux auxquels on a à faire face aujourd'hui sont des enjeux strictement opérationnels. Donc on a identifié au niveau des opérations, que ce soit à la fois au niveau des opérations d'assemblage, au niveau, je dirais, de notre structure de coûts, de structure de coûts fixes, etc., quels étaient les leviers qu'il fallait qu'on mette en place pour réaliser ces objectifs financiers que j'ai évoqués précédemment. Le deuxième volet, le deuxième pilier, qui est le pilier redéploiement stratégique, lui démarra légèrement décalé par rapport à la partie performance. Je pense qu'il est important de respecter l'ordre des facteurs, comme on dit. Ce deuxième pilier, donc, démarrera au mois d'avril de cette année. Période pendant laquelle, ensemble de l'année 2014, pendant laquelle on va évaluer un certain nombre de scénarios, s'autoriser à remettre en cause ou de rediscuter un certain nombre de choix, sans aucun tabou. Et au terme de l'année 2014, début 2015, on partagera avec le marché le scénario stratégique sur lequel on veut s'appuyer, sachant que ce scénario stratégique vise un objectif qui est similaire à celui du pilier performance, de la croissance, mais de la croissance génératrice de cash.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Frédéric Michelon
Merci à
d'avoir
vous.
été avec nous, donc nouveau président du directoire de l'ATECOR.
Merci.